Le journal Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans un rapport transmis à la commission des affaires sociales du Palais Bourbon, le gouvernement estime qu'un effort raisonnable et indispensable est à court terme pour assurer la pérennité de l'assurance chômage. Selon l'UNEDIC, la dette de ce régime va dépasser les 29 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, et ce malgré les économies déjà réalisées. Le gouvernement évoque donc des pistes et propose trois leviers: le taux de contribution des salariés et des employeurs, la durée d'indemnisation et le niveau des allocations. Autant de mesures possibles entre les mains des partenaires sociaux qui doivent se voir très prochainement pour renégocier officiellement, comme tous les ans, la convention de l'UNEDIC. Les Britanniques affirment avoir marqué des points dans le bras de fer qui les oppose depuis plusieurs semaines maintenant à la Commission de Bruxelles. On sait que le Premier ministre a promis un référendum en juin prochain sur une sortie possible de l'Europe. D'ici là, Londres tente de modifier à son avantage un certain nombre de règles du jeu commun. Et manifestement, le travail de sape de la Grande-Bretagne semble porter ses fruits. Le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, va d'ailleurs faire des annonces dans les heures qui viennent. Et on s'attend, quant à Dickinson, à d'importantes concessions dans le domaine de l'immigration.
Rien n'est encore officiel, mais il semblerait que l'on s'achemine vers la reconnaissance que le Royaume-Uni, ayant unilatéralement ouvert ses portes sans restriction en 2004 aux ressortissants des 10 pays entrés dans l'UE cette année-là, aurait droit aujourd'hui au bénéfice d'un mécanisme de sauvegarde pour le cas où l'équilibre financier de son système de protection sociale serait menacé par l'afflux de migrants provenant d'autres États européens, ce qui n'a jamais été le cas de par le passé et ne l'est pas davantage en ce moment. Ce mécanisme, s'il devait être déclenché, permettrait à Londres de suspendre pendant 4 ans au maximum toute aide sociale aux ressortissants européens qui viendraient s'installer sur son sol. Non rétroactive, cette disposition ne pourrait être invoquée au-delà d'une période de 7 années à compter de l'entrée en vigueur de l'accord global. Afin d'éviter toute discrimination, les 27 autres pays de l'UE pourraient, s'ils le souhaitent, se prévaloir de ce mécanisme. D'autre part, les propositions de Donald Tusk comporteraient une modification des règles sur la minorité de blocage en Conseil des ministres de l'UE. Un groupe représentant 55% des pays, c'est-à-dire actuellement 15 d'entre eux, pourrait exiger l'abandon d'un projet de loi européenne.
En Chine, la presse revient largement ce matin sur une fraude gigantesque qui concerne des centaines de milliers de petits épargnants. La police vient en effet d'arrêter le patron d'une plateforme financière en ligne qui a réussi à collecter plusieurs milliards de dollars. À Pékin, c'est une correspondance de Dominique André.
La fraude est énorme. Elle touche 36 provinces chinoises, près d'un million de petits épargnants, pour un montant de 7 milliards 600 millions de dollars. À la tête du scandale, Ding Ning, président du groupe international Yusheng. Cet ancien commercial, âgé de 34 ans, a fondé en 2014 le plus gros site chinois de finance en ligne, Ezubao, un système de peer-to-peer, de particulier à particulier, très en vogue en Chine. Grâce à une campagne de publicité, y compris sur des médias officiels chinois tels que la CCTV, le site attirait ses proies en promettant des rendements séduisants, atteignant jusqu'à 14,5% par an, bien plus qu'une banque traditionnelle. Mais après 18 mois, le rêve est devenu cauchemar. 95% des prétendus investissements étaient factices. Les enquêteurs ont mis 20 heures pour extraire à coups de pelleteuse 1200 livres de comptes enfouis à 6 mètres de profondeur dans un jardin. Ils ont découvert que les escrocs du peer-to-peer menaient grand train, villa à Singapour, voiture de luxe, bague en diamant pour la maîtresse de M. Ding, qui s'octroyait un bonus annuel de 75 millions d'euros en cash. En décembre, la Chine annonçait un resserrement de sa réglementation sur la finance en ligne. Les petits épargnants en colère demandent à être remboursés.
Et puis toujours à Pékin, on apprend ce matin la fermeture d'un centre d'aide aux femmes. Ce lieu proposait des services et des conseils juridiques. La police vient de mettre fin à ses activités parce que cette maison des femmes était financée par des fonds en provenance de l'étranger. Hillary Clinton, qui connaît la fondatrice de ce centre, a tweeté son soutien en souhaitant que ce lieu continue à exister. La candidate démocrate qui est au coude à coude aux États-Unis avec Bernie Sanders à l'issue des premières primaires organisées dans l'État de l'Iowa. Égalité parfaite, semble-t-il, entre les deux adversaires. En revanche, les jeux sont faits dans le camp républicain. Avec 28% des suffrages, le sénateur du Texas, Ted Cruz, gagne cette primaire. Le milliardaire Donald Trump arrive en deuxième position, suivi de près par le sénateur de la Floride, Marco Rubio. Encore de la pluie sur le nord de la Bretagne, une perturbation qui gagnera l'Île-de-France et les Ardennes. Sur le massif central et sur le sud-ouest, la grisaille cédera peu à peu la place à de belles éclaircies. Sur les Alpes, le pourtour méditerranéen et les Pyrénées, la journée sera agréable, les températures sont toujours très douces pour la saison, de 10 à 18 degrés cet après-midi.